près de carnet de commandes qu'on ouvre et qu'on referme depuis le début de cette semaine au Palais des Expositions de Villepinte en région parisienne. C'est le Salon international de l'armement qui se tient toute cette semaine. Rendez-vous des militaires et des industriels de la défense. Tous les deux ans, sorte de foire fouille où l'on trouve un peu de tout. Des pneus en gomme spéciale, des boutons pression étanche, des uniformes, du plus joli kaki et évidemment des lance-missiles ou encore des chars d'assaut. Alors après 3 mois de guerre en Ukraine, c'est un secteur en ébullition. Michel Gretry, vous êtes sur place, vous suivez ce salon toute cette semaine pour nous. Quelle est l'ambiance ?
Eh bien François, si vous vous attendez à un salon de l'armement dans une ambiance c'est reparti comme en 40, vous allez être déçu. Oui, depuis février, les Occidentaux parlent de réarmement et plusieurs pays ont envoyé ici de fortes délégations et du joli matériel de guerre pour s'efforcer de montrer leur savoir-faire. Des pays surtout à la périphérie européenne, les Baltes, les Slovènes, les Bulgares, les Turcs. Alors certes, des budgets énormes sont débloqués, mais de là à ce qu'ils se traduisent déjà en contrats, en espèces sonnantes et conquérantes, il y a de la marge. Et pour que les retombées parviennent jusqu'aux sous-traitants, des grands donneurs d'ordre, ce n'est vraiment pas pour tout de suite.
Ouais, vous qualifieriez le climat d'attentiste, d'impatient ?
Plutôt le qualifier de perplexe, parce que la crise ukrainienne a une autre conséquence. Elle suit la crise sanitaire qui a dérégulé les chaînes logistiques, et donc les pièces détachées manquent, les matières premières sont devenues rares et chères, et à vrai dire, il n'y a pas grand monde qui soit capable actuellement de fabriquer rapidement de quoi rééquiper ou moderniser les forces armées.
C'est un peu le blues dans le complexe militaro-industriel ?
Il ne faut quand même pas exagérer, mais il y a encore un autre souci, ce sont les banquiers. Les financiers, les fonds d'investissement sont de plus en plus frileux. L'opinion publique évolue sur la question des exportations d'armes, mais les banquiers savent que l'opinion publique est versatile et ils sont de plus en plus sourcilleux sur les questions éthiques, parfois plus que le gouvernement wallon, avec des critères plus sévères. En région liégeoise, par exemple, l'agence de relance Nochac risque bientôt de ne plus pouvoir soutenir les firmes qui travaillent même partiellement pour le secteur de la défense. Alors, dire que les entreprises sont moroses, non, mais contrairement à ce que vous pourriez croire, François, elles ne sont pas euphoriques non plus.
Voilà, c'était Michel Gretry depuis le Salon international de l'armement qui se tient cette semaine à Paris. On va se pencher sur ce marché des armes, sur cette volonté aussi de doper les défenses en Europe avec Yannick Kéo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Les entreprises d'armes, pas très euphoriques, nous dit Michel Gretry. On est un peu surpris par cette information. Vous confirmez ?
C'est surtout une forme de réserve, un petit peu de pudeur dans un salon de l'armement qui doit en plus recevoir une visite présidentielle et une forme d'attentisme parce que c'est vrai qu'il y a certains défis très présents sur les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de construction, les chaînes de valeur, comme ça vient d'être mentionné très intelligemment dans le reportage derrière, ça me permet de le souligner. Donc oui, il y a cette forme d'attentisme et puis il y a un modèle de guerre qu'on voit en Ukraine qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, c'est-à-dire une guerre avec de très forte intensité, avec une très forte attrition du matériel, alors qu'en fait on a développé en Occident et ailleurs dans le monde un modèle d'armée avec une forte intensité technologique qui est mise sur un nombre réduit de plateformes. Et on voit que le nombre des plateformes, c'est important dans une guerre de haute intensité. Donc il y a des interrogations pour les industriels.
Vous voulez dire
quel modèle d'armes de production qu'ils sont capables de mettre en œuvre.
Vous voulez dire que la guerre en Ukraine, c'est une forme de guerre à l'ancienne qui a une influence évidemment sur le marché des armes aujourd'hui ?
Oui, un petit peu. Il y a un petit peu de ça. C'est une guerre où, effectivement, on le voit du côté russe, le nombre de pertes matérielles et en hommes, évidemment aussi. Mais pour les industriels, c'est la question du matériel qui est peut-être la plus criante à l'heure actuelle. Donc, effectivement, il y a cette dimension-là, une guerre un peu à l'ancienne où on perd énormément d'équipements. Il faut avoir une chaîne d'approvisionnement capable de les remplacer, capable d'avoir personnel aussi pour les manipuler derrière. Et c'est très compliqué à mettre en œuvre.
Ouais, forme d'attentisme, vous le disiez, tout de même une volonté politique, on le voit ici en Belgique avec les discussions encore hier soir et sans doute toute la semaine pour atteindre ou non 2% du PIB dans les dépenses pour la défense d'ici 2035, répondre aux exigences de l'OTAN. On voit que l'Allemagne se réarme. C'est une volonté politique un peu partout en Europe. bientôt le retour du service militaire, la guerre froide. On en est où dans cette...
Il y a beaucoup de choses dans la question. Il faut laisser la guerre froide là où elle est. Elle est terminée, elle est morte et enterrée. Vouloir analyser aujourd'hui les phénomènes complexes de rivalité qu'on a au niveau international avec le prisme de la guerre froide, c'est extrêmement dangereux. Ça nous induit en erreur. Ça ne nous permet pas de nous préparer comme il faut. Vouloir penser aujourd'hui qu'il suffit de rétablir la conscription pour avoir des soldats capables de manipuler ce type de matériel, c'est une vue de l'esprit. Le soldat a complètement changé entre cette époque-là.
Mais quand on évoque ici en Belgique cet objectif de 2% du PIB, concrètement, ça veut dire quoi ? On va engager du personnel, on va acheter beaucoup d'armes, des véhicules ?
Il y a énormément de défis. Déjà, il y a une erreur fondamentale qui consiste à dire qu'on détermine un budget de défense ou des moyens militaires en pourcentage de PIB. Non. On débat à l'Assemblée chaque année à travers une loi budgétaire et on vote cette loi. Cette loi budgétaire, c'est l'expression d'une volonté politique. Il est hors de question de laisser une alliance militaire, même si elle s'appelle l'OTAN, décider de comment on exprime et quelle politique on met en œuvre dans les États membres. Donc ça, c'est la première des choses, c'est clair. Et l'autre dimension, ça consiste à dire que si c'est 2%, et ben voilà, c'est 2% pour la défense. On ne débat même pas de cette question-là. Les autres marges de l'action politique ou les autres moyens de l'action publique, on doit les trouver ailleurs. Donc il y a une véritable contradiction là-dessus entre l'OTAN qui prétend défendre la réalité démocratique et qui veut se mettre à l'abri, en fait, des débats démocratiques et avoir beaucoup de prévisibilité. Ensuite, le PIB, c'est une valeur variable, hein. Ça monte et ça descend. 2% du PIB. Si l'économie régresse, ça n'intéresse pas les militaires d'avoir un PIB qui régresse et donc des moyens qui régressent derrière. Donc ce qu'ils veulent, c'est plus de prévisibilité et tirer les moyens vers le haut. Il y a une part de légitimité là-dedans parce qu'il y a beaucoup de modernisation d'équipements à l'heure actuelle et il faut sans doute les remplacer. On parle des F-35, c'est une des parties les plus visibles, mais dans le terrestre, il y a d'autres phénomènes aussi. Et on a une nouvelle génération d'armement, donc il faut être sélectif, il faut savoir faire des choix à l'heure actuelle pour savoir ce qui doit être remplacé et comment on doit être remplacé. Mais il faut le faire dans le cadre d'un débat démocratique et d'une véritable discussion dans ce cadre-là. Or, là, il y a une tentative de passage en force partout en Europe au profit de la guerre en Ukraine en disant « Ah ben là, il faut s'armer plus, comme ça on va régler le problème ukrainien ». C'est totalement faux. Il n'y a aucun lien entre plus d'armes en Europe et la capacité à régler le problème ukrainien. Ce qu'il faut, c'est en fait, c'est qu'il faut effectivement pouvoir remplacer certaines armes qui sont livrées en Ukraine, mais de dire qu'on va dépenser plus, qu'on va être plus en sécurité par rapport à la Russie, c'est globalement faux. On dépense déjà 4 à 5 fois plus que la Russie.
Donc il n'y a pas besoin d'atteindre ce chiffre de 2% du PIB pour être en sécurité face à la menace russe.
Donc il faut faire attention à ce qu'on veut dire être en sécurité, ça c'est fondamental. Et être en sécurité, c'est pas nécessairement défoncer plus dans la défense, c'est aussi être plus en commun en matière de entre Européens. Et on a énormément de mal à se faire confiance là-dessus. Il faut savoir aussi réduire le fardeau que représente la dépense militaire sur la richesse collective. Et quand on dit que c'est 2%, on n'est pas en train d'essayer de le réduire, on est en train d'essayer de le figer et de dire que ça, c'est le minimum.
Alors, encore un petit mot à propos de ce salon. Il y a un millier d'exposants qui seront là toute la semaine, dont des grosses entreprises belges, évidemment. La Belgique, ça reste un fabricant d'armes reconnu, incontournable sur le marché ?
Oui, il y a quelques niches où l'expertise belge est largement reconnue, que ce soit John Cockerill avec les tourelles qui sont embarquées sur des véhicules blindés, tourelles de tir, donc de canon, ou avec FN-Herstal. Évidemment, on a là les deux chefs de file, on a aussi des fabricants de munitions comme Mekar, qui sont des chefs de file avec un véritable savoir-faire reconnu au niveau international.
Et on les vend à qui ces armes, on peut le rappeler, Yannick Kéo ?
Vous parlez. Moi, déjà, on le vend surtout dans un cadre européen et OTAN d'abord, mais ensuite, on les vend à l'extérieur aussi, particulièrement au Moyen-Orient, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis.
Mais c'est une production en augmentation, la production d'armes belges ?
C'est difficile de se faire une idée. Les marchands d'armes belges se portent plutôt bien pour ce qui est le haut du pavé. Les guerres, les tensions sont un facteur qui tire le marché vers le haut. Mais ce sont aussi des groupes comme Mekar ou John Cockerill où la défense n'est qu'une dimension parmi d'autres et il y a d'autres facteurs qui tirent la prospérité de ces groupes-là.
Alors, les organisateurs de ce salon de l'armement et les producteurs d'armes en général mettent souvent en avant le fait que le secteur de l'armement est un vrai tremplin pour l'innovation technologique en général. C'est exact. Est-ce que le développement des armes permet des innovations qui vont bénéficier à tout le monde dans le civil?
Alors, c'est pas faux, mais c'est l'inverse. Ce sont les innovations du civil qui, aujourd'hui, sont les gros facteurs d'innovation. Je veux dire, les budgets de recherche et développement d'un groupe comme Amazon, c'est à peu près le chiffre d'affaires au total de Lockheed Martin, qui est la plus grosse entreprise de défense au monde. Donc il n'y a pas de commune mesure entre l'innovation qui est réalisée dans le privé aujourd'hui et celle qui est réalisée à travers la défense. Et il y a une autre dimension, c'est que l'innovation qui est réalisée dans la défense aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est de plus en plus spécifique à la défense. Je vous donne un exemple, un avion furtif dans le civil, ça ne sert pas à grand-chose.
Effectivement. Enfin, ça ne peut servir à rien du tout, un avion furtif.
Généralement, les avions, on espère savoir où est-ce qu'ils sont pour pouvoir les repérer avec les trafics aériens. Et quand on en perd un, ça soulève beaucoup d'interrogations.
C'est une des grandes règles de l'aviation civile, effectivement, c'est qu'il faut toujours savoir où sont les avions. Ce Salon mondial de la défense et de la sécurité, on le rappelle, Eurosat Vory, ça tient donc à Paris jusqu'à la fin de la semaine. Merci beaucoup, Yannick.
Merci à vous.
Qui